Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Rainer Maria Rilke est l'un des poètes les plus illustres de toute la littérature de langue allemande. Né à Prague en 1875, il a longtemps résidé dans divers pays européens. Puis, lors des 5 dernières années de son existence, il a posé ses valises en un même lieu. Savez-vous lequel? Eh bien, il s'agit du château de Musotte à Verras, tout près de Sierre. Grâce au soutien financier d'un mécène suisse-allemand, Rilke a pu résider dans cette bâtisse. Ceci dit, je vais vous parler aujourd'hui de la maison de Courten. Située à quelques pas de la gare de Sierre, cette magnifique bâtisse ancienne abrite un musée dédié à Rilke. Je vous propose d'écouter l'interview de Brigitte Duvillard, directrice de la Fondation Rilke. Cette fondation gère le musée et organise de surcroît de nombreuses activités ayant pour but de mieux faire connaître la vie et l'œuvre de l'écrivain autrichien. Madame Duvillard commence par nous parler des principales activités de cette fondation.
La Fondation Rilke gère un musée qui est ouvert toute l'année. Elle a également un programme de manifestations culturelles tout au long de l'année. Ça peut être lecture, concerts, films. Nous avons des archives, une collection qu'il s'agit d'étoffer aussi régulièrement, un centre de compétences dans lequel nous recevons des auteurs et des traducteurs qui travaillent chez nous. À cela s'ajoute évidemment aussi toujours la recherche de fonds, qui est aussi une des activités importantes pour une fondation comme la nôtre.
Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre, entre guillemets, avec Rainer Maria Rilke, par un poème, par un livre ou par quelque chose d'autre?
Je me souviens bien, c'était à l'époque où la poésie était encore largement enseignée à l'école. J'étais adolescente et le premier poème de Rilke que j'ai lu, c'est La Panthère, un poème très très connu encore aujourd'hui aussi, et qui m'a beaucoup touchée par la perspective du poète qui se met en fait à la place de cet animal derrière les barreaux, voilà, qui perd un peu le contact avec le monde. C'était une rencontre, oui, qui m'a beaucoup émue, qui a contribué à mon intérêt pour la poésie.
Très bien, Rilke est souvent considéré comme l'un des plus grands poètes de langue allemande. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense qu'il n'est pas seulement un des plus grands poètes de langue allemande, mais un des plus grands poètes tout court. Il y a beaucoup de poètes contemporains qui se réfèrent à lui. Il est très lu aux États-Unis jusqu'à l'Extrême-Orient. Il est vraiment très, très présent, pas seulement dans la poésie, mais également dans la musique, dans le cinéma, dans la prose. C'est un auteur qui est vraiment devenu un peu un auteur culte aujourd'hui, mais ça à l'échelle mondiale.
Avant de se consacrer entièrement à l'écriture, Rilke a fait d'autres activités professionnelles, lesquelles?
Alors, la poésie a toujours été quand même son métier, entre guillemets, plutôt vocation principale. Rilke, en tant que jeune homme, a aussi écrit des critiques d'art. Il a pensé dans un premier temps un peu en faire son gagne-pain. Ceci dit, la poésie a très vite pris le dessus et puis il a pu par la suite se consacrer entièrement et sans compromis à elle.
Et puis, il a séjourné dans de nombreux pays, en Europe et en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a fait? Dans quelle perspective?
Les séjours de Rilke ont toujours été un petit peu le fruit du hasard. Il était, avant d'arriver en Valais, un nomade, toujours à la recherche d'un endroit où habiter. Et puis voilà, des possibilités se sont présentées à lui dans les pays scandinaves. Après, c'était un choix d'aller en Italie aussi pour l'art. C'était l'Espagne qui l'a attiré. C'était aussi sur la trace de peintres, du Greco notamment. Le voyage en Afrique du Nord était le fruit d'une invitation. C'est des amis qui l'ont invité à faire ce voyage. Donc, en fait, les raisons sont multiples et il a ainsi pu séjourner vraiment dans de nombreux pays européens avant tout. C'était un Européen avant la lettre, Rilke.
Sauffrant, il a aussi été le collaborateur personnel ou peut-être secrétaire d'Auguste Rodin.
Chez Rodin, il a habité jeune homme. En fait, la motivation était d'écrire une monographie. Ce qu'il a fait en deux volumes sur Rodin, c'est Rilke qui a fait connaître Rodin en Allemagne, qui a même contribué à la vente de certains de ses œuvres. Et Rilke était jeune homme. Rodin est déjà un maître à son apogée. Et Rilke a pu gagner un peu d'argent. Je pense que c'était une forme aussi de soutien de la part de Rodin que de l'engager, de l'aider dans sa correspondance.
Très bien, à l'âge de 45 ans, Rilke s'est installé en Valais, tout près de Sierre. Pour quelle raison?
Il faut peut-être revenir à son arrivée en Suisse. Rilke a souffert énormément de la Première Guerre mondiale qui a vraiment amené chez lui un blocage d'écriture et il a cherché un endroit tranquille où pouvoir écrire et il est venu, voilà, de nouveau une fois de plus, il est venu en Suisse par hasard pour faire des tournée de lecture. Et il s'est installé d'abord aussi à différents endroits, donc une vie de nomade aussi en Suisse. D'abord, Tessin, Grisons, canton de Bâle, canton de Zurich, différents endroits, avant de trouver le château de Musotte qui a été loué pour lui et ensuite acquis pour qu'il puisse y résider. Donc la raison, c'était vraiment de pouvoir renouer avec cette écriture. Et puis on verra que le Valais, le château de Musotte ont largement fait leur preuve parce que c'est là qu'il pourra accomplir son chef-d'œuvre, les élégies de Duino, et écrire en même temps les sonnets à Orphée.
C'était ma question suivante. Où se situe ce château de Musotte?
Il se situe un peu plus haut, sur les hauteurs de Sierre, à Verras précisément.
Et aujourd'hui, qu'est devenu ce château? Est-ce qu'on peut le visiter, par exemple?
Ben, ce château est toujours propriété des mécènes qui l'ont acquis pour Rilke, la famille Reinhardt. C'est un château qui est habité par ses propriétaires en large partie, donc il n'est pas ouvert au public. Mais la fondation Rilke montre justement beaucoup de détails, voilà, qui touchent ce château dans son exposition permanente.
Lorsque Rilke a habité à Sierre, tout près de Sierre, est-ce qu'on sait s'il rencontrait facilement des habitants de la région?
Les lettres que nous avons de lui et qu'on nous remet encore régulièrement montrent qu'il a eu des contacts avec des personnes de Sierre, notamment une jeune enseignante à qui il a prêté des livres, hein, c'était un peu la bibliothèque en quelque sorte pour plusieurs personnes. Et Jeanne de Sépibus, une bourgeoise de Sierre à qui il a dédié les Quatrains valaisans qu'il a écrit en langue française. Donc il y a eu quelques contacts. Ceci dit, Rilke cherchait quand même un peu la solitude. C'est pas par hasard que dans une de ses lettres, il signe l'ermite de Musotte. Il cherchait cette solitude pour pouvoir écrire, tout en entretenant des contacts aussi très nombreux à l'extérieur à travers sa correspondance pendant ces années.
Et puis, est-ce qu'on a trace de certains contacts qu'il avait avec des milieux culturels, avec d'autres artistes de la région?
Non, alors là, il y a un grand intérêt de lui pour l'art visuel, hein, on le sait, Rodin, Cézanne, mais ça n'est pas le cas pendant qu'il est en Valais. Il a à peine des contacts avec d'autres écrivains. Il mentionne par exemple Ramu dans une de ses correspondances, donc il y a quand même une connaissance un peu de ce qui se fait. Oui, peut-être René Maurax, s'il faudrait mentionner, c'est le dramaturge. Théâtre du Jorat, là, il y a eu un contact. Ils ont même vu une pièce de Maurax ensemble à Rarogne, mais c'est plutôt rare, ces contacts. Par contre, beaucoup de contacts avec les auteurs, certains auteurs français, Paul Valéry, André Gide, par exemple.
Que disait-il à propos du valet? Est-ce qu'il en parle dans sa correspondance ou dans des livres?
Il en parle très fréquemment dans ses correspondances. Il est très élogieux pour le Valais, pour le paysage. Ce qui le touche, c'est l'espace, c'est le côté méditerranéen. Il le compare souvent, donc, au début, quand il le découvre, à la Provence et à l'Espagne, endroit qu'il a visité, où il a vécu auparavant. Et il lui rend hommage justement dans les Quatrains valaisans. Le titre est vraiment une forme de remerciement pour ce paysage qui lui a permis de renouer avec sa créativité.
Est-ce que dans la presse valaisanne ou suisse, la venue d'un grand poète comme lui a été abondamment commentée? Est-ce que vous savez?
Alors l'arrivée, pas du tout, puisqu'il n'était pas prévu qu'il restait en Suisse. Hein. Comme j'ai dit, il est venu un peu par hasard et il s'est installé à plusieurs endroits. Par contre, la mort de Rilke, c'est là qu'on mesure quand même l'étendue de son rayonnement. Je veux dire, ça a été alors vraiment commenté partout et aussi en Suisse et en Valais.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Rilke a écrit certains poèmes en français. On imagine qu'il parlait assez couramment cette langue.
Rilke a dû être vraiment bilingue, en valais en tout cas. Quand il était à Paris, il le maîtrisait encore moins bien, mais en valais, il faut dire aussi qu'il a beaucoup lu en français, il a traduit le français. Nombreuses de ses correspondances étaient en français, même à des destinataires germanophones de Suisse allemande. Il y a des larges passages qui sont écrits en français. Et donc, il a fait ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Il a écrit dans cette autre langue, avant les langues étrangères qui souvent l'ont entouré, ont fait une différence pour lui entre la langue écrite, qui était l'allemand, et la langue étrangère qui l'entoure. Et là, il y a eu cette osmose, c'est devenu perméable. Il a commencé à écrire en français. Il aura écrit environ 400 poèmes en français également.
Je crois qu'il avait formulé le vœu de finir ses jours en Valais. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Alors, il parle pas de terminer les jours ici, mais il dit que s'il devait mourir en Suisse, il voudrait être enterré à Raronne. Et Raronne, c'est vraiment un endroit qu'il a choisi, n'est-ce pas? Normalement, on est enterré là où on a résidé. Ce n'était pas le cas pour Rilke. Il a aimé Raronne. Il y a cette vieille église médiévale sur un rocher qui donnait sur une plaine très large, un peu les configurations topographiques qu'il a trouvées à Duino à l'époque. C'est vraiment un endroit qu'il a beaucoup aimé, qu'il a découvert déjà en 1922. Et donc, c'était vraiment le souhait d'être enterré à Raronne, ce qui n'était pas facile. Il fallait négocier avec les autorités ecclésiastiques et la commune pour que ça puisse être possible.
Alors justement, il a été enterré dans cette église dont vous nous parliez. Est-ce qu'on peut visiter cette église et sa tombe?
Alors, il n'est pas enterré dans l'église, mais la tombe juxtapose l'église. Elle est toute seule sur ce petit carré d'herbe qui donne sur la plaine. Alors, on peut le voir, oui, c'est accessible toute l'année.
Pour la deuxième partie de cette interview, Brigitte Duvillard va nous parler de la maison de Courtaine à Sierre, qui est donc le bâtiment qui abrite le musée Rilke.
La maison de Courtaine est un manoir du XVIIIe siècle et il est intéressant de savoir que Rilke, pendant son exil munichois pendant la guerre, a connu des descendants des constructeurs de cette maison de Courtaine. Il reprend contact avec eux, il leur écrit quand il découvre cette maison, même à Sierre, qu'il dit qui a cette maison simple et tranquille à Sierre, et il leur demande s'ils la connaissent. Donc c'est un lien direct que nous avons avec le poète en étant hébergé ici par la ville de Sierre.
Brigitte Duvillard, il y a quelque temps, on a entendu parler de vous dans la presse parce que vous avez reçu certaines lettres de la correspondance entre Rilke et une autre personne. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
C'est une lettre de Rilke adressée à Édouard Corrodi, à la veille en fait de la publication de ses poèmes en langue française, Verger et les quatre Valaisans. Un vendeur parisien nous avait proposé cette lettre à un prix vraiment très très élevé. Et le hasard a fait qu'on a pu, lors d'une manifestation à la Fondation, toucher un mot à M. Janada qui nous a demandé de faire une offre à ce vendeur.
L'offre donc, M. Janada, bien sûr, le
Monsieur
directeur
Leonard
de la Fondation Janada.
Janada, donc, qui est le directeur, le président de la Fondation Pierre Janada et aussi de la Fondation Leonard Janada Mécénat. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a, il nous a pu faire la surprise de l'acquisition de cette lettre qu'il nous a remis à Martigny. Une lettre, bien sûr, éminemment importante pour la Fondation Rilke, voilà, puisque ça touche au Valais, ça touche à la langue française. Et donc, nous sommes très heureux de l'avoir désormais dans notre collection.
On dit que Rilke a écrit beaucoup de lettres. Est-ce qu'on sait combien de lettres il a envoyé ou reçu au cours de son existence, à peu près?
Alors, on estime le nombre de lettres de Rilke à 10 000. On en connaît déjà un très grand nombre, mais on en retrouve chaque année, en fait, on peut dire, parfois plusieurs centaines de lettres encore inconnues dans différentes bibliothèques, dans des collections privées. Il y a eu une publication d'un échange épistolaire inédit cette année. Et nous, à la Fondation, on reçoit chaque année plusieurs lettres encore inconnues, par exemple, des lettres de Rilke à une jeune institutrice siéroise, lettres qui sont restées dans la famille, qui ont voyagé aux États-Unis, qui sont revenues ici et qui nous ont été remis il y a peu de temps.
Au total, vous avez à peu près combien de lettres qui concernent Rilke?
Oui, on a plusieurs dizaines, enfin ça passe la centaine de lettres, essentiellement basées sur des lettres des années valaisannes de Rilke, donc Rilke à Jeanne de Sépibus, à qui il a dédié les quatre valaisans, Rilke à Yvonne de Vatteville, qui ont été publiées qu'en français, mais qui sont en français, en allemand toujours inédites, et il y a ainsi plusieurs lettres, plusieurs ensembles de lettres importants qui concerne les années valaisannes. Nous sommes bien sûr toujours informés des ventes qui se font et nous sommes souvent contactés par des personnes, par des privés, par des descendants de destinataires de telles lettres qui nous les remettent.
Et puis, est-ce que vous avez des gens qui veulent consulter ces lettres et est-ce que c'est possible de consulter les originaux si par exemple c'est un étudiant ou un chercheur qui voudrait les voir?
Alors, nous les montrons sur demande, mais pour le travail, bien sûr, nous avons fait des scans et on peut travailler avec les scans de ces lettres chez nous à la Fondation. Nous avons également digitalisé l'ensemble des correspondances publiées de Rilke, donc ça fait vraiment toute une bibliothèque. C'est de nombreux volumes qui peuvent être consultés, par exemple, par mots-clés. C'est très intéressant aussi pour les chercheurs ou pour les étudiants d'avoir accès à l'ensemble des lettres publiées à la Fondation Rilke.
Et quel type de documents est-ce qu'on peut voir dans ce musée?
Nous exposons régulièrement des manuscrits. Nous avons une belle collection de lettres, aussi de manuscrits de poèmes, par exemple des élégies de Duino. Nous avons l'exposition permanente axée voilà, sur les années valaisannes du poète avec des citations de lui-même essentiellement. Et nous avons régulièrement des vitrines temporaires justement pour montrer des pièces de notre collection.
Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler aussi des activités annexes, on dira, qui sont organisées dans la Fondation, comme des conférences, des balades, des choses comme ça?
Oui, nous avons un riche programme d'activités, par exemple les midi poésies à la Fondation Rilke, elles ont lieu au musée et permettent de découvrir des jeunes poètes avec souvent leur premier volume de poésie. Elles sont animées par Marlène Métraillé, c'est une lecture, c'est aussi une rencontre poétique avec le public et puis voilà une petite collation qui suit cette rencontre. Nous avons Par ailleurs, plusieurs manifestations en commun avec le parc naturel de Fanges, par exemple Nectar et poésie. Alors, les abeilles dans la poésie, c'est vraiment un thème important, ou nos sorties ornithopoétiques. En automne, une sortie grand poète petit bois. Il y a ce petit bois de vieux chênes à cierre où on peut aussi évoquer un peu le motif de l'arbre, très important dans l'œuvre de Rilke. Nous aurons un concert où il y a aussi des compositions inspirées, en l'occurrence par une traduction de Rilke. Le printemps de la poésie, tout prochainement, que nous organisons à la ferme Asile et conjointement avec elle, avec deux jeunes artistes qui nous présentent une performance basée sur leur lecture de jeunesse de textes de femmes. Donc c'est un programme très riche et varié auquel s'ajoute cette année tout le programme 4 pour l'exposition justement Rilke, ses Dürrenmatt, Bon vin et le vin, avec également des joutes de traduction, avec des rencontres, avec des séances de cinéma. Donc il y a vraiment l'embarras du choix.
On voit qu'il y a vraiment une belle palette d'activités. On suppose que tous ces renseignements, on peut l'avoir sur votre site internet.
C'est ça,
peut-être
oui.
Nous rappeler l'adresse.
C'est www.fondationrilke.ch.
Brigitte Duvillard, une dernière question. Rilke est-il devenu pour vous une sorte d'ami, de confident? Est-ce qu'en votre fort intérieur, vous lui parlez parfois?
Alors Rilke est bien sûr le poète qui m'est le plus proche et chez qui je découvre toujours des nouvelles aspects encore. C'est un ami, non, en fait, c'est quand même quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais avec qui je corresponds d'une certaine manière, et je rigole quand je vais retirer un envoi à la poste et que la jeune fille au guichet me demande si j'étais Madame Rilke.
Très bien. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter le meilleur pour votre fondation.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Gillon. Merci beaucoup.
C'est ainsi que se termine cette interview. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt.